Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vegs, l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale. Dans ce 43e numéro, nous avons le plaisir de recevoir Daniel et Caroline. Daniel anime le site internet Parole d'animaux, la voix des sans-voix, site où vous pouvez trouver un grand nombre d'informations sur les animaux et la cause animale. Sur ce site, vous pouvez aussi écouter les chroniques écrites par Caroline au sujet de livres traitant de la relation homme-animal que vous pouvez aussi découvrir sur son site le temps d'une chronique. Alors cette année, Caroline réalise des chroniques dédiées aux livres sélectionnés pour le Prix Maya 2025. Pour rappel, le Prix Maya, dont l'équipe d'organisation est Tourangelle, récompense chaque année des livres faisant avancer la cause animale, et ceci dans trois catégories, romans-récits, livres jeunesse et bande dessinée. Vous avez déjà pu entendre dans l'émission précédente des chroniques de Caroline, et nous consacrerons d'ailleurs la deuxième partie de l'émission à la diffusion de trois nouvelles chroniques de Caroline présentant trois livres sélectionnés pour le Prix Maya cette année. Alors le premier livre, ça sera Assise, debout, couchée d'Ovidie, qui est sélectionné dans la catégorie roman-récit. Nous écouterons ensuite une chronique sur le livre Naître animal, les fascinants secrets de famille des animaux de Marie Caudry, qui est sélectionné dans la catégorie livre jeunesse, et enfin une chronique consacrée à l'Atrui, le juge et l'avocat de Daniel Vidal et Laurent Galandon, et ça c'est dans la catégorie bande dessinée. Et bien c'est parti pour ce 43e numéro d'ABC des Vegs sur Radio Campus Tours. Caroline et Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors merci d'avoir répondu à mon invitation. Pour commencer, avant de parler de paroles d'animaux et temps d'une chronique, pouvez-vous nous parler de votre parcours, de ce qui vous a conduit à vous engager pour les animaux?
Oh là, c'est vieux ça. Oui, donc moi j'étais, ma première passion pour les animaux, ça a été les ours. Mmh. Et j'ai commencé par militer avec des associations qui protégeaient les ours en France et dans le monde. Et puis après, ça s'est enchaîné, les loups. Et puis après, j'ai été bénévole dans un refuge. Et après, je me suis un petit peu intéressé. Enfin, je suis venu sur Paris. Et donc, j'ai milité avec L214, avec 269 Life notamment, avec des actions de rue très régulières quand j'étais à Paris.
Et pour les associations là, de défense des ours et des loups, c'était quoi le nom des associations? C'est encore des associations actives?
Alors, c'était deux associations. Il y a une qui s'appelait Artus et l'autre Groupe Loup France, qui ont fusionné et qui finalement maintenant s'appelle Ferus.
Ah, Ferus, effectivement, dont on avait pu diffuser une conférence qui avait été réalisée à la Vegan Place il y a 2 ans. D'accord. Très bien, Daniel. Caroline, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu, toi, ton parcours, ce qui t'a conduit à t'engager pour les animaux?
Oui, alors moi, les animaux font partie de ma vie depuis toute petite, je crois. Une espèce de lien invisible, mais très très fort avec eux. Et ce qui a fait que dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à être bénévole dans des associations. Et le temps passant, donc ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis bénévole. Et dernièrement, j'ai été photographe pour One Voice et Code Animal, pour infiltrer, oui, des scènes de delphinarium ou des zoos ou des cirques, puisque Code Animal se dédie aux zoos et aux cirques. Et One Voice brasse plus large. Ça, c'est du côté pour la photographie, pour l'écriture. Donc, ça fait à peu près 8 ans que pour Paroles d'animaux, je chronique des ouvrages de tout type, bandes dessinées, romans, essais, et j'en oublie sûrement, poèmes, bien sûr, romans graphiques. J'ai également milité pour L214. Et puis, j'ai organisé aussi un événement, la Maison de la Radio, sur... Bon, là, on élargit un peu plus le domaine, mais sur la communication interespèces, un événement qui a été programmé par mon frère, qui est aussi beaucoup dans la condition et la cause animale. Et moi, je me suis occupée de tout l'événement, l'organiser sur 2 ou 3 jours, 3 jours d'ailleurs. Voilà, donc je suis extrêmement impliquée dans cette cause-là qui me tient, qui me fait me lever chaque matin, tout simplement.
Alors, je vais me tourner vers toi, Daniel. Est-ce que tu peux nous présenter le site Parole d'animaux, La Voix des Sans-Voix, sa genèse et sa vocation?
Alors, Parole d'animaux, ça existe depuis à peu près le début des années 2000, avec au départ un blog personnel. Je trouvais intéressant de pouvoir rassembler sur un endroit des informations provenant de différentes sources et parlant de la protection animale et ensuite du véganisme, parce que je suis végane, donc j'ai tendu un petit peu le développer un peu plus les sujets. Et puis vers les années 2010, un petit peu plus, même 2015, j'ai créé une radio web qui s'appelait Radio Parole d'Animaux, bien entendu. Et on a donc fonctionné pendant 5 ans avec ces radios. Et c'est comme ça que j'ai connu Caroline et qu'on a travaillé ensemble. Cette radio, elle est arrêtée maintenant pour des différentes raisons, lassitude, un petit peu le coût aussi. Et j'étais passé en association pour pérenniser cette radio, dans le cas où elle continuerait, bien entendu. Et maintenant, on n'a plus qu'un blog que je mets à jour régulièrement, on va même dire tous les jours, tous les matins. Et donc, il y a plein d'informations qui sont reprises. C'est une sorte de revue de presse quotidienne des informations qui arrivent sur les animaux. Et puis, un autre point fort, en dehors des chroniques de Caroline, c'est l'agenda. On gère un agenda et une carte. Qui est géré par Google Maps, on va le dire, qui permet d'avoir pratiquement tous les événements, enfin une bonne partie des événements de la cause animale en France.
D'accord. Et pour les auditeurs et auditrices de Radio Campus Tours, est-ce que tu pourrais donner des exemples de contenus récents, par exemple, qu'ils pourraient trouver sur le site de Parole d'Animaux?
Ah, eh bien, on a relayé. Les vidéos de L214 qui ont été tournées au Salon de l'Agriculture dernièrement, en fin de semaine dernière. On a mis la chronique à Caroline. On a relayé une action de PETA aussi. Enfin, plein d'actions, c'est-à-dire que tous les jours, on trouve forcément des choses qui concernent la cause animale et certes, souvent la maltraitance. Et on relaie pas tout, hein, parce qu'on ne veut pas non plus être un site qui soit uniquement le reflet de toutes les maltraitances qui peuvent exister. Hein, donc on essaye de trouver des choses qui sensibilisent bien, très souvent avec une pétition derrière, une action. C'est important. On ne fait pas trop entre guillemets, la chronique des maltraitances écrasées, comme on disait, chien écrasé. Je veux pas faire ça. Et puis, on relie aussi, par exemple, les informations de Futur Asso, que tu connais peut-être.
Oui.
Non?
Si, oui, je connais Futur Asso, effectivement. Par rapport aux assos que tu cites, en fait, comment ça se passe? C'est toi qui fais un travail un peu de veille ou c'est eux qui te contactent pour des infos à diffuser?
C'est un travail de veille. Il n'y a pas de. Enfin, je suis en contact avec pas mal d'associations. Je connais beaucoup de monde dans la protection animale. Mais bon, le blog, il est le reflet d'un travail de veille. Hein, je suis abonné à X newsletter. J'ai un suivi avec Google Actualité tous les jours avec des thèmes bien précis. Et avec tout ça, bah, je fais mon choix des infos que je souhaite diffuser. Hein, il y a aussi un petit peu le coup de cœur, c'est-à-dire que j'y mets dedans ce qui me touche. Hein, je sais qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses que je ne peux pas diffuser parce que ce serait totalement difficile à faire. Par contre, il y a le petit coup de cœur, c'est-à-dire que quand je vois une info qui me touche, je la diffuse forcément.
Est-ce qu'il y a, alors je crois qu'il y a un système de newsletter, ça veut dire qu'il est possible pour les auditeurs ou auditrices qui seraient intéressés de pouvoir
Exactement.
s'abonner et recevoir les informations en fait sur leur boîte mail.
Exactement. On peut s'inscrire à la newsletter et tous les matins, enfin toutes les nuits à 0 h arrivent toutes les publications de la veille.
D'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais réexpliquer, parce que quand j'ai regardé sur Internet, il s'avère qu'il y a pas mal de paroles d'animaux. Je crois que j'en ai vu au moins 3. Pour éviter l'erreur, parce qu'il me semblait que j'ai vu qu'il y avait d'autres paroles d'animaux qui n'avaient rien à voir avec ce que tu faisais.
Oui, tout à fait. Bah parce que en fait, moi, je n'ai pas protégé le nom. Et je crois qu'avant d'avoir pris Parole d'animaux, il y en avait un qui existait déjà. Mais bon, c'était ma volonté d'utiliser parole d'animaux. Donc, mais effectivement, quand on va sur Internet, on tombe sur différents trucs paroles d'animaux. Comment le repérer, je ne sais pas du tout. C'est paroles-d'animaux.fr. Les autres ne sont forcément quelque chose de différent.
De différents,
Hein, c'est
d'accord.
soit le point quelque chose qui est différent, où il y a un apostrophe ou ainsi de suite. Moi, c'est paroles-d'animaux en un seul mot. .fr.
D'accord, ok. Comme ça, c'est
Et il y a un autre domaine qui existe aussi, qui est paroles-d'animaux.com. Et
D'accord, oui, d'accord.
paroles-d'animaux.com renvoie sur paroles-d'animaux.fr.
D'accord, très bien. En tout cas, l'important, c'est que je crois que si on met la voix des sans voix, ça permet de cibler
Oui,
effectivement que c'est bien
tout
le
à
bon
fait.
parole d'animaux pour pouvoir trouver toutes les
tout à fait,
informations
tout à fait.
et écouter les chroniques de Caroline. Donc, Caroline, est-ce que tu peux, enfin, est-ce que tous les deux, vous pouvez nous parler, vous l'avez évoqué, l'origine de votre collaboration?
Alors, l'origine de la collaboration, c'est la radio. C'est-à-dire que quand j'ai
C'est bon.
créé la radio, il a fallu forcément trouver des personnes qui puissent animer, faire des chroniques en dehors de celle de Caroline, hein, puisque la radio comportait des infos. On avait l'agenda qui était diffusé sur la radio et on avait différentes chroniques qui étaient faites par différentes personnes. Il y avait des recettes véganes d'ailleurs. Et donc, Caroline a répondu à mon appel que j'avais lancé sur Facebook de mémoire. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et Caroline m'a dit qu'elle faisait des chroniques littéraires et que c'était sur les animaux. Donc j'ai dit, OK, je prends, ça m'intéresse. J'étais assez preneur de tout en termes de radio, enfin preneur de tout. Tout ce qui concernait la cause animale et le véganisme, j'étais preneur. J'ai contacté beaucoup comment dire, de YouTubeurs qui faisaient des émissions ou des podcasts sur la cause animale, sur le véganisme. Je leur ai demandé l'autorisation de rediffuser leur podcast, ce qu'ils m'ont jamais refusé d'ailleurs. Et donc Caroline, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et depuis que la radio est arrêtée, elle continue à faire des chroniques avec moi.
Caroline, si tu veux parler un peu de...
Et donc, à l'origine, si je me souviens bien, Daniel, tu me diras si j'ai raison ou tort. Je crois qu'à l'origine, quand j'ai commencé pour Parole d'animaux, j'enregistrais des petites annonces d'adoption. Donc, à la base, c'était ça. Je donnais ma voix justement pour ceux qui n'en ont pas. Donc, c'était des petites annonces d'adoption. Il y avait des agendas aussi. Et puis, un jour, je crois que tu as reçu le premier livre de Camille Brunel, La guérilla des animaux. Et tu m'as dit, est-ce que ça t'intéresse de le chroniquer? Et puis moi, j'ai allié mes trois passions, hein, le livre, l'écriture et la condition animale. Et tout est parti de là. En plus, c'est un livre boomerang, très, très puissant. Donc l'aventure a commencé à ce moment-là. Et puis elle ne s'est jamais arrêtée. Donc aujourd'hui, mon blog recense à peu près une cinquantaine de chroniques. Je contacte parfois directement des éditeurs. Actes Sud, mais très fidèles. Ils ont une très très belle collection de livres qui s'appelle Monde Sauvage. Et voilà, ils me font confiance. Donc, et à ce jour, c'est vrai que je me vois pas arrêter parce que le livre est vraiment un vecteur très très puissant. C'est un transmetteur d'informations, de sensibilisation incroyable pour enfants et pour adultes. Et donc, dans mon blog, il y a une section jeunesse et une section adulte. Et une section Primaya 2025, parce que cette année, j'ai l'honneur et j'en suis vraiment très, très heureuse d'avoir réalisé les 15 chroniques, enfin 14, puisqu'il me manque un livre, des auteurs sélectionnés en lice pour le Primaya 2025.
Et
Voilà.
par rapport au livre que tu chroniques depuis le début sur le temps du chronique, comment tu les sélectionnes? Est-ce que tu t'es fixé toi des critères de sélection et si oui, lesquels?
Alors, il y a beaucoup de livres qui m'ont été proposés par Daniel. Donc, moi, ma réponse à 99,9%, c'est oui, parce que je suis très curieuse et je pense que dans tout livre, il y a un message, qu'il soit sous forme de poésie, d'essai, de roman, de polar. Donc, c'est en grande partie des livres au début que Daniel m'envoyait, sous forme plutôt, pas PDF justement, parce que j'ai du mal à chroniquer en PDF, mais en support livre. Et après, je me suis prise au jeu, j'ai fait mon blog, et à partir de ce moment-là, j'ai pu avoir cette légitimité et m'asseoir aussi à côté de l'association de parole d'animaux pour demander un peu en direct à des éditeurs voilà, Flammarion, Gallimard, Actes Sud et tant d'autres, et j'en passe. Et mes choix se portent, ça va de la vie d'un mûcheur qui a une relation avec son animal extrêmement privilégiée. Tout tourne autour des alliances, en fait. Moi, mon objectif, c'est de montrer qu'il y a tellement de livres sur la souffrance animale, et j'essaye quand même d'apporter un petit éclairage un peu plus, un petit peu plus, pas positif, mais en tout cas, une petite lumière au bout du tunnel pour montrer qu'on peut vraiment créer des alliances, et que ce ne soit pas non plus une chronique trop plombante. Déjà à lire, parce que j'en ai lu certains qui étaient très, très difficiles à lire et donc à chroniquer. Et je pars du principe aussi qu'une lecture qui sensibilise, c'est une lecture qui amène un peu de lumière, en tout cas, qui fait réfléchir. Et dans ce sens, les alliances, il y en a tellement que mes choix se portent maintenant un peu plus là-dessus.
Et donc, tu disais que tu avais des liens avec des maisons d'édition. Est-ce que tu as des liens avec des auteurs ou des autrices?
J'aimerais bien, ceci est un appel à la radio. Opportune Coste, dont Daniel parlait, m'a vraiment chaleureusement remerciée parce qu'elle a été très touchée. En fait, c'est très particulier de faire une chronique. Une recension, c'est pas une critique, c'est pas un résumé, mais c'est encore autre chose. Et donc, Opportune m'a vraiment remerciée chaleureusement et elle m'a demandé de. Ça l'a touchée en fait de m'entendre parce que j'enregistre mes chroniques. Et donc, sur le site de Parole d'Animaux, elles ne sont que audio, et sur mon blog, elles sont écrites et audio, c'est la différence. Et elle m'a proposé donc de chroniquer un ancien livre qu'elle a fait qui s'appelle Parole animale. Donc voilà, il y a des liens qui se créent un petit peu entre les auteurs qui sont toujours très très surpris d'entendre au travers de ma voix leurs émotions à eux et leurs messages, mais avec ma petite patte en plus, ma griffe. Voilà, donc à l'avenir, j'aimerais avoir développé mes contacts, oui, c'est l'idée.
En tout cas, j'avais vu sur ton site que tu as un livre d'or et qu'il y a des auteurs et autrices qui ont effectivement laissé des petits messages pour te remercier pour les chroniques que tu as réalisées. Je pense notamment à Audrey Jouglat ou Camille Brunel, etc. Donc, j'imagine que c'est pour toi une reconnaissance aussi de ton travail.
C'est extrêmement touchant. C'est une mise à nu presque. C'est pas parce que voilà, une fois de plus, c'est pas un exercice très facile. Il s'agit pas d'encenser l'ouvrage ou de le descendre. Il s'agit de tirer un fil rouge, peut-être que les gens ne voient pas lors de la lecture. Et puis c'est vrai que quand il y a des retours, il n'y en a pas toujours, mais qui sont très touchés et donc touchants. Moi, oui, ça me touche au plus profond et je me dis que vu que ça me prend énormément de temps, je ne fais pas ça pour rien. Et après, l'idée, c'est d'essaimer, de transmettre et donc de se faire connaître. Donc sur Instagram, j'ai commencé cet été, j'ai ouvert un compte qui s'appelle Temps d'une chronique. Il n'y a pas le, c'est Temps d'une chronique. Donc avec un visuel très moderne, une accroche. Et ça commence à marcher, enfin petitement, mais sûrement. Et voilà, donc la curiosité fait son chemin. Donc ça me touche beaucoup, et bien sûr. Ouais.
En tout cas, on espère que les auditeurs et auditrices de Radio Campus Tours iront voilà, jeter une oreille sur le site Le Temps d'une chronique. D'ailleurs, pour ces auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais parler de voilà, deux ou trois livres traitant de la relation homme-animal que tu as pu chroniquer, qui t'ont particulièrement marqué ces dernières années? Exercice, j'imagine, très difficile.
Que je n'avais pas préparé.
Je
Merci, Jérémy.
ne sais pas, ou alors récemment, et peut-être. Quelques
Oui.
livres qui récemment t'ont peut-être particulièrement marqué. Ça, c'est
Alors,
pour
oui,
aiguiser
alors.
la curiosité des auditeurs et des auditrices, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Donc, dans la collection, la fameuse collection d'Actes Sud, Monde Sauvage, il y a un spécialiste de l'ours qui s'appelle Rémi Marion, Daniel, sûrement tu le connais, et
Oui.
j'en ai fait une chronique, et qui a fait un ouvrage magnifique sur l'ours
Désolée,
polaire.
je ne comprends pas.
Voilà, donc là, je ne sais pas si on m'entend, sur l'ours polaire. Donc il a une langue extrêmement fleurie, extrêmement vivante. C'est un passionné de l'ours, mais de tous les ours, hein, le grizzly, le polaire. Donc ça, c'est un livre qui m'a profondément marqué parce qu'il nous a tout simplement, il ouvre des perspectives sur cet ours polaire qu'on voit disparaître à vue d'œil, hein, puisqu'il a plus trop de banquise pour se promener. Et il nous donne toujours des solutions d'espérer. Voilà. Par exemple, à Churchill, au Canada, c'est une ville où il y a plus d'ours que d'humains et on ne déplore aucun accident depuis des années. Donc ça, c'est le genre de lecture qui me fait du bien.
C'est montré qu'il peut y avoir une cohabitation entre l'homme et l'animal. Oui.
Tout à fait, tout à fait. Et je parlais tout à l'heure du premier livre que j'ai chroniqué de Camille Brunel, La guérilla des animaux. Donc là, on est dans un roman extrêmement qui pulse à 100 à l'heure, hein, qui démarre par le massacre d'une tigresse à Ranthambore, une des réserves d'Inde. Et on retrace le parcours d'un animaliste forcené qui, coûte que coûte, parle au nom des animaux et prend pour lui toute cette guérilla au nom de tous les animaux qui se font, ben voilà, qui disparaissent chaque jour un peu plus sur cette planète. Et Camille Brunel a vraiment une langue, enfin, une plume qui, moi, me bouleverse parce qu'elle pulse à 10 000 à l'heure. Il nous embarque dans sa vision qui est extrêmement humanimaliste, j'ai envie de dire, les deux. Et ça, c'est très fort. Donc ça, c'est le premier ouvrage qui est devenu d'ailleurs un de mes livres de chevet. Donc s'il m'entend, Camille, sache que ton livre est sur ma table de chevet.
Et depuis le temps que tu fais des chroniques justement de livres, comment tu vois l'évolution de l'édition des livres consacrés au thème justement la relation de l'homme à l'animal?
Alors, j'ai été très surprise de voir que le livre Son odeur après la pluie, qui raconte donc l'histoire d'un homme et de la mort de son chien, Hubac, a fait un carton, on appelle ça comme ça, en librairie. Et enfin, je me suis dit, ça y est, on y est, on touche du doigt un peu l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ne se moque plus d'un homme qui parle de son chien, on ne se moque plus d'un homme qui pleure sur son chien. Et ça, je pense qu'il y a 20 ans, ça aurait été risible, malheureusement. Aujourd'hui, ça l'est plus. Donc, de plus en plus, il n'y a qu'à voir les tables dans les librairies qui sont de plus en plus dédiées à la faune, à la flore, à l'environnement, à la sentience, à des termes aussi qu'on explique aux enfants. Il y a des éditeurs comme Evalou, qui fait des super albums jeunesse, qui a fait un premier manga vegan aussi en lice pour le prix Maya 2025. Il reverse d'ailleurs une partie de ses profits pour Rossi Shepard, qui, voilà, qui touche les enfants d'une manière incroyable et qui les font réagir du haut de leurs 3 ans et qui les font. Ils se posent des questions qui ne se seraient peut-être pas posées il y a 50 ans parce que le livre n'était pas encore fait pour ça. Mais aujourd'hui, je pense que le livre a toute sa place et toute sa légitimité. Et il y a de plus en plus de choix, donc je suis très heureuse.
Alors, Daniel et Caroline, là, c'est une question pour tous les deux. Est-ce que vous avez des projets pour Parole d'animaux d'un côté, pour le temps d'une chronique, des projets d'évolution, des envies?
De mon côté, ah pardon,
Vas-y,
vas-y.
non, non, vas-y, Daniel.
Ok, donc de mon côté, j'ai rien pour l'instant. J'essaye de trouver la bonne présentation du site, ce qui n'est pas forcément évident. Je suis sur WordPress et il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément sur le site actuel. J'aimerais bien le faire évoluer pour qu'il soit plus attractif et plus où les lecteurs, les internautes se sentent plus attirés vers Parole d'animaux.
D'accord, donc c'est plus une évolution, une refonte un peu du site sur la partie un
Exactement.
peu esthétique et fonctionnalité. Ouais. Et toi, Caroline,
Exact.
des projets? Voilà.
Alors, quant à moi, mon projet aujourd'hui, il est plutôt d'ordre professionnel parce que j'offre des compétences de chroniqueuse littéraire. J'ai contacté beaucoup d'associations de protection animale, mais qui n'ont pas le budget pour embaucher. Donc, aujourd'hui, mon projet, ce serait en parallèle de continuer à travailler évidemment sur ce blog, ces chroniques, mais aussi d'en faire un moyen de subsistance. Voilà, donc mon projet, il est plus professionnel, mais je lâcherai jamais ces chroniques. C'est pas au programme.
Très bien. Alors pour terminer, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez présenter à chacun votre tour un petit peu le morceau que vous avez choisi pour les pauses musicales? Donc Daniel, toi, ça sera le morceau qui va suivre l'entretien. Et toi, Caroline, ça sera des morceaux qui seront diffusés entre les chroniques, tes chroniques qu'on va diffuser dans la deuxième partie d'émission. Daniel, tu peux présenter le morceau qui va suivre?
Oui, alors j'ai choisi Tribunal Animal, qui est un groupe qu'on connaît pas trop bien, sauf dans la protection animale, qui a fait deux albums. Et j'ai choisi le titre Vegan et Souture, parce que pour moi, la protection des animaux, ça commence par dans notre assiette. Donc il faut être vegan, et ça c'est très important. Et je pense que bon, on va y arriver progressivement, je pense, dans les années à venir. Mais c'est vraiment dans notre assiette que tout commence.
Et
Donc
Caroline,
c'est
toi, peux-tu
vegan.
présenter... Ah, excuse-moi, Daniel, je t'ai coupé.
Non, non, mais parce que oui. Non, non, je disais que vegan et suture, c'est le reflet de ce que je pense au niveau de l'évolution. De l'alimentation et ce qu'on peut faire, notamment pour les animaux.
Caroline, est-ce que toi, tu veux présenter le morceau qui servira de pause, d'intermède entre tes chroniques?
Oui, j'ai choisi la bande originale du magnifique documentaire sur la Panthère des Neiges. Donc, texte de Sylvain Tesson et film plutôt de Vincent Munier et de sa compagne, Marie, et je ne me souviens plus de son nom de famille. Et c'est une musique de Nick Cave qui dit en gros We are not alone. Donc nous ne sommes pas seuls et il serait bien temps de s'en apercevoir. Et c'est une musique sublime.
Parfois je me demande qui est normal entre ceux qui ont décidé de ne pas voir, ont-ils même décidé, et ceux qui cet océan de souffrance provoqué, organisé et juste insupportable. Esprit asservi à la matrice. La vie comme un grand QCM. Et toi, t'as quoi comme QI? QI, QI, QI. Oiseau empalé sur les trottoirs, indifférence générale, ventres obscènes, icônes animales dérobées, bienvenue dans la matrice. I'm walking among you, I'm living the present, in this crowd I was born, I'm sorry I don't share, I need to be so cold. Éphémères viendront toujours se poser. When I see your dishes, I'm feeling an offense. Would you please realize that they have been living beings? These pebbles have grown in shape. C'est ton hobby, c'est ta passion. C'est comme jouer aux échecs ou collectionner des timbres, tiens. Impensable de redevenir co-responsable. Puisque maintenant, la lucidité est là. Et j'en suis fière. Torturing mothers and eating billions of children. Will we be forgiven? I'm sorry to be so clear, but we are just murderers. We're wearing the silence intérieur serait un bon commencement. Un luxe inouï. Repartir vierge. Voir ce qui est. Sentir la souffrance. Voir la beauté. Sortir enfin de la matrice.
Dans cette chronique, je vous invite à découvrir des ouvrages sur les animaux ou l'environnement, des lectures pour aller plus loin dans la réflexion et la connaissance. Assise, debout, couchée, de Ovidie, chez Laetès. Notre histoire est liée à celle du chien, qui 35 000 ans avant notre ère est né loup. Quelle place occupe-t-il dans notre vie, dans notre façon d'être au monde ? Ovidie a toujours vécu aux côtés de chiens marqueurs de son existence, de son être tout entier. En nous racontant leur histoire, elle nous parle aussi du combat des femmes. Clébards et sales chiennes sont les premières victimes du patriarcat et ont développé au fil de l'histoire de l'humanité une relation unique, main dans la patte. Le capitalisme s'est fondé sur une double exploitation, celle des animaux et celle du corps des femmes, un constat qui l'interpelle. Assise, debout, couchée, est une biographie canine qui rend hommage à ses plus fidèles compagnons de route. Eddie, Raziel, Alaska, Freya, Brunhilde auront marqué son cœur à jamais, certains plus que d'autres. L'occasion de parler d'eux, c'est aussi nous plonger dans l'histoire du canidé. Depuis la féministe Marguerite Durand et son cimetière pour chiens au XIXe siècle, jusqu'aux bénévoles dans les refuges au XXIe siècle. Dans ce témoignage caustique, turbulent, touchant et engagé, le point levé d'une battante qui n'aura jamais accepté de se coucher face à ses détracteurs nous embarque dans ses batailles intimes. Les histoires se mêlent, les combats se répondent, tout fait écho. Très tôt, le chien a une fonction affective, gardien des plus vulnérables dans les foyers, enfants et femmes, et devient vite partenaire social. Son développement fondé sur l'empathie lui assure une place bien définie. On s'y attache, mais c'est aussi un souffre-douleur. Contrairement au loup, il aboie, ce qui le sauvera dans certaines situations. Acteur à part entière dans sa relation à l'humain, il l'influence grandement. Il était temps de lui redonner une histoire. C'est chose faite grâce à ce livre enragé parfois, féroce souvent, et qui n'exclut jamais la douceur que lui inspirent ses compagnons de vie. Ils l'ont véritablement construite, lui ont sauvé la vie, et sont tous le marqueur d'une époque. Il ne faut pas se retrouver seul au combat. Petite fille déjà, elle emmène son patou Eddie partout où c'est pas la porte. « Prends le chien au cas où », lui conseille-t-on. De cette image publique qui lui colle à la peau, de ce rejet familial, de cette fuite vers la capitale, à chaque étape de sa vie, il y aura toujours un chien collé à ses basques. Son grand amour est un bulldog anglais, Raziel et elle, c'est une codépendance bien heureuse. Lui ne demande qu'à exister dans son regard à elle, et elle sera toute sa vie pour lui, qui accorde la grâce, sans aucun jugement. Une intimité construite sur une confiance absolue bilatérale. Il est son compagnon d'infortune, une source de réconfort, sa famille, un authentique maillotichien. Elle tatouera à sa cheville le numéro d'immatriculation de Raziel, marqueur biographique, processus corporel de biographisation qui marque un moment clé de la vie de ce personnage en marge de la société. Cause animale, un combat de femmes. Le patriarcat repose sur une double domination, celle des femmes et des animaux, comme propriété des hommes, premières victimes, qui dès lors évolueront ensemble dans l'assiette ou dans un lit. D'un point de vue idéologique et sociologique, le sexisme et la haine séculaire à l'égard des femmes ont déniché ce mot « chienne », celle qui trahit toute norme sociale humaine en étant infidèle. Il n'est pas surprenant de compter un maximum de femmes investies dans la cause animale, un engagement politique qui attire comme le féminisme. En 1893, au nombre des maladies répertoriées dans le guide pratique des maladies mentales, on y trouve toute affection exagérée pour les animaux. Faire preuve d'empathie pour une autre espèce était donc perçu comme un trouble psychiatrique. La corrélation entre la violence faite aux femmes et aux animaux n'est plus à prouver. Le foyer reste le lieu de tous les dangers. Unis dans la rouste, nous sommes liés au clébard face à la conjugalité. Dès 1883, en France et en Grande-Bretagne, de nombreuses militantes anti-vivisectionnistes s'engagent également au sein d'organisations féministes. Femmes de lettres et intellectuelles s'emparent de la question animale. Une double lutte contre la communauté scientifique qui cherche à démontrer que toute femme ne peut espérer s'affranchir d'une tutelle masculine, étant elle-même biologiquement inférieure. Timide changement de paradigme. Les mentalités évoluent et l'on ne peut que saluer le courage de Jean-Pierre Hutin, pleurant publiquement son fidèle Mabrouk, figure iconique de 30 millions d'amis, mort subitement à 6 ans. Sans filtre et avec une absence totale de contrôle, un homme dit enfin haut et fort le champ de mine qu'est son cœur après le départ de son compagnon de vie. Une peine souvent incomprise et pour laquelle nous sommes seuls face à l'indicible vide. Le succès du livre « Son odeur après la pluie » met les mots justes sur une douleur qui, 10 ans après, ne cicatrise pas. Aimer les chiens, c'est accepter une certaine idée de la mort, qu'ils partiront avant nous. Un cadeau et une malédiction. Le deuil canin reste encore un impensé. Le chien a un pouvoir thérapeutique et de médiation, parfois psychopompe, marqueur biographique d'une existence. Son acceptation dans l'espace public urbain est un vrai enjeu politique. En combinant son amour du cinéma et des chiens, Ovidie a organisé un festival international de films de chiens, ainsi qu'un colloque autour de la question canine. « Le chien, c'est un projet de vie », nous dit-elle. En détaillant son lien viscéral à ses corneaux, elle livre dans ce récit percutant, en lice pour le prix Maya 2025, une biographie mi-humaine, mi-animale, avec sa verve habituelle, emplie d'une familiarité moqueuse et amusée, entrecoupée de fragments d'histoire de la relation mouvementée de l'homme à son meilleur ami. Le chien est le dernier rempart contre les agressions, enfant de substitution, ayant passé avec les femmes une alliance mystérieuse pour survivre à la violence. Il est le mari décédé, le bébé qu'on ne peut plus avoir, un membre de la famille, thérapeute et confident, une escorte magnifique. S'il ne sent pas quelqu'un, il alerte, véritable tri sélectif sur pattes. Il est le compagnon de vie, celui qui reste quand on n'a plus rien. Mais le chien est aussi le défenseur du foyer, garde du corps, le protecteur de la rue, le dernier rempart contre les violences masculines. En ce moment, près de 3 millions de chiens errants marocains risquent l'extermination, pure et simple, par le pays hôte de la Coupe du monde de football 2030. Malheureusement, ni le premier, ni le dernier canicide. Le chemin est encore long dans nos sociétés étriquées pour envisager une fois pour toutes l'animal comme un individu à part entière. À croire Kafka, les chiens sont tout le savoir, la somme de toutes les questions et de toutes les réponses. Ce n'est pas Ovidie qui dira le contraire.
This world has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot, unaware. I was observed, I was observed. We are not alone.
Good news for
we are not alone.
Good news
we are not alone.
Good news
we are not alone.
Good news
we don't see them.
Good news.
We are not alone.
Good
Naître animal, les fascinants secrets de famille des animaux, de Karine Granier-Defer et Marie Caudry aux éditions Casterman. Les animaux n'auront de cesse de nous étonner. À l'heure des grands bouleversements des codes familiaux et de l'identité sexuelle, leurs différents modes de reproduction interpellent. Il existe des poissons transsexuels, des manchots homo, des papas accoucheurs et des femelles féministes. Et c'est un élégant et passionnant album documentaire jeunesse qui ouvre les portes de ces univers foisonnants aux enfants et à leurs parents. En lice pour le prix Maya 2025, Naître animal, les fascinants secrets de famille des animaux, raconte, à travers 26 surprenantes histoires, l'incroyable diversité observée lors de la reproduction, la naissance, l'élevage, jusqu'à l'indépendance des petits. Parents absents, célibataires, en couple, hétérosexuels, homosexuels ou qui vivent en communauté, comment les espèces privilégient la survie de leurs petits? Chez les animaux comme chez les humains, il n'y a pas une seule manière de venir au monde, ni une famille modèle. Au contraire, et c'est bien là l'infinie richesse du vivant. La bravoure, le courage, la ténacité, la solidarité, la fidélité, le sens du collectif, l'adaptabilité, la roublardise, la complicité, aucun subterfuge n'est de trop pour assurer la relève. Les textes de Karine Granier-Defer en typo très actuel sont généreux et pédagogiques et habillent les dessins colorés et expressifs de Marie Caudry, talentueuse auteure-illustratrice jeunesse. Les gouaches grand format renforcent l'idée d'immersion profonde. La couleur orange fluo dynamique titille comme il faut la rétine. La lecture est fluide, on en redemande à chaque chapitre. On voyage, on expérimente, on se laisse surtout surprendre. À chaque animal, sa fiche d'identité et un glossaire éclairant en fin d'ouvrage. La qualité graphique rend l'accessibilité ludique et joyeuse. La sauterelle magicienne dentelée fait un bébé toute seule. La pieuvre commune accroche en grappe une moyenne de 250 000 œufs au plafond de sa grotte. Le crocodile du Nil écrase délicatement la coquille dans sa gueule armée de 60 dents pour aider à l'éclosion du petit. Le coucou, lui, adopte le parasitisme de couvée. En 10 secondes chrono, il pond son œuf dans le nid d'une rousserolle. La maternité ne l'intéresse pas. Hippocampe et crapaud sont des papas accoucheurs. Le campagnol des prairies ne connaît qu'un partenaire pour la vie. Deux manchots mâles ont fait leur coming out aux eaux de New York. Des familles de matriarches, de cachalots géants ou d'éléphants des savanes ne cessent de nous faire encore rêver face au merveilleux. Chez le couple dominant du poisson clown, si la femelle vient à mourir, c'est le mâle qui en quelques jours change de sexe pour devenir lui aussi femelle. Une belle leçon de tolérance et d'amour. Cet album documentaire fait réfléchir sur ces schémas parentaux relevant souvent d'une résistance farouche face aux écosystèmes de plus en plus chancelants. Pour preuve, à 74 ans, le plus vieil albatros de l'Aisan vient d'avoir un poussin à Hawaï. Elle a survécu à un tsunami en 2011 et surmonté le deuil de son amoureux de toujours. Son nom, Wisdom. Une belle histoire de résilience, alors que son espèce a failli être exterminée par la chasse et qui affronte aujourd'hui de nombreuses menaces comme les filets de pêche, les collisions dans les airs et des lieux de nidification dégradés. Son poussin va être chouchouté par les deux parents, vous pouvez en être certain. De tels ouvrages accessibles à tous sont essentiels pour mieux appréhender notre compréhension de ce monde qui nous entoure du vertébré au mollusque. Tous adoptent des moyens de survie souvent improbables pour assurer la transmission. Mettre le doigt sur tant d'obstacles parfois pour la survie relève de l'exploit. À nous de rendre dignes de telles incroyables destinées en évitant purement et simplement de croiser leur chemin.
Thank you. I traveled a lot unaware I was observed. I traveled a lot unaware I was observed.
La truie, le juge et l'avocat, de Laurent Galandon et Damien Vidal aux éditions Delcourt. Au Moyen-Âge, les animaux, considérés comme des êtres vivants créés par Dieu et donc dotés d'une âme capable de distinguer le bien du mal, sont reconnus responsables de leurs actes. Ils sont en conséquence jugés face à un tribunal. L'Église étend également ses excommunications aux rats, mouches, sauterelles, taupes et poissons. Diantre. C'est la Bible elle-même qui justifie une telle pratique. Si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on n'en mangera pas la viande, mais le propriétaire du bœuf sera quitte. Exode 21-28. Dans cet exercice, porcs, cochons et truies sont les plus souvent concernés, en raison du vice diabolique susceptible de les habiter. En réalité, ces simulacres d'audience servaient à maintenir l'ordre et à contenter les notables. En 1386, une truie coupable d'avoir dévoré un nourrisson est habillée en femme, puis exécutée sur la place publique, histoire de donner l'exemple aux humains et aux cochons venus assister à un tel événement. De nos jours, admettre que les animaux ont une âme fait grincer des dents les cartésiens sceptiques. Un peu d'étymologie pour souffler un vent contraire. Le mot « animal » vient du latin « animalis » qui désigne un être vivant mobile, dérivant d'anima, souffle ou air, un mot souvent traduit par « âme ». Dans la truie, le juge et l'avocat, nous sommes conviés à un procès qui fait grand bruit dans la cité, suscitant curiosité malsaine et bas instinct. Une truie est accusée de troubles à l'ordre public, ayant provoqué la mort d'un notable. Plusieurs témoins sont formels et ont sans hésitation reconnu l'animal. Nombreux sont ceux qui en appellent à la peine capitale. Mais un avocat déchu, mystérieux et retors, décide de renfiler la robe. Dans cette fable judiciaire aux accents satiriques, Laurent Galandon et Damien Vidal s'en donnent à cœur joie avec force stéréotype. Un juge décomplexé aussi cruel au tribunal qu'à la maison, une truie et son gardien désabusés, un avocat côtoyant les pavés et la misère, en caillette avec une corneille, entendez par là qu'il lui cause à l'oreille, un peuple avide de sensations fortes et altérées de sang. Une peinture sans concession d'une époque révolue et qui entre pourtant en résonance avec la société d'aujourd'hui. Cette chronique judiciaire peu banale interroge notre rapport au bien et au mal et notre lien aux animaux. Pour les oies, spectatrices et caustiques, la définition d'un procès se résume à peu de choses. Les hommes appellent ça la justice, une sorte de passage avant de revenir à la barbarie habituelle. Le verbe est haut en couleur, les expressions en vrac truculentes, le dessin un brin austère. Quand l'homme s'excite, c'est que la truie est cuite, murmure un rat perché dans les hauteurs de la salle du tribunal. À la croisée des combats, il y a le féminisme et l'antispécisme. La femme du juge et la truie du porcher subissent le mal. Corneille, cheval, rat et chat forment à eux seuls une alliance inespérée contre toute forme incarnée de domination. Le jugement divise le peuple. Rebondissement en cascade, vision manichéenne autour de cette truie qui ne comprend guère ce qu'on lui reproche et qui n'a qu'une hâte, retrouver ses porcelets. Guère de place pour la nuance dans cette bande dessinée qui fait mouche, en lice pour le prix Maya 2025. Le scabreux pimente l'affaire et on pense immédiatement au regretté Jean Tellet qui n'aurait fait qu'une bouchée de cette affaire. Le récent film « Un chien à la barre » nous interroge sur le statut que nous accordons à nos compagnons de vie, trop bêtes pour être considérés et pourtant jugés. Début décembre, à Strasbourg, un procès fictif a enfiévré les bancs de l'amphi universitaire de la ville en remettant dans le débat les droits des animaux en France. Robert, gorille emblématique du zoo, aurait attaqué un visiteur, le blessant grièvement. Quel sort la justice humaine va-t-elle réserver aux primates? Le procès se déroule en 2040, alors que la France a adopté une loi pour reconnaître la personnalité juridique non humaine des animaux. Les animaux sont donc responsables pénalement, c'est l'objet de ce procès. Désormais doté d'une personnalité juridique aux yeux de la loi, le gorille sera-t-il condamné comme n'importe quel quidam à la barre? Son statut de primate le dédouane-t-il de ses responsabilités? Avoir des droits implique-t-il d'avoir aussi des devoirs? Autant de questions qui invitent chacun à s'interroger sur le statut des animaux. Non coupables ont finalement décidé les jurés, tirés au sort dans l'assistance au terme de leur délibération. Nous avons retenu qu'ils n'avaient pas la possibilité de se rendre compte de ces actes. Il a été considéré comme un enfant ou une personne fragile. Robert a déjà purgé sa peine. 15 ans d'emprisonnement dans un zoo, sans avoir commis de crime, avait plaidé la défense un petit peu plus tôt. Un acquittement fictif, mais qui souligne la fragilité et le flou autour de l'animal. La loi française le place dans un état de lévitation juridique. Pas totalement un bien, pas totalement une personnalité juridique. La truie, le juge et l'avocat questionnent ce rapport à la soumission, notre feu intérieur d'une révolte qui couve depuis longtemps et qui un jour explose. Par le truchement de la bande dessinée et donc du dessin, c'est notre conscience de lecteur qui se chargera du reste. Notre sphère de compassion s'est élargie un petit peu plus. Ouf !»
Between the striking and the fire.